À voix nue, Alain Corneau, avec Sophie Nolot.
Alain Corneau, deuxième.
Apprenti cinéaste. Nous avons évoqué hier vos années de formation à l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques, tout de voilà, même.
Oui, hein, avec un beau diplôme à la fin.
Qui est devenu en 86 la FEMIS. Nous avons aussi parlé brièvement de votre virée à Manhattan avec l'espoir de filmer le free jazz des musiciens noirs. Nous sommes donc au milieu des années 60, c'est ça ? Et vous revenez à Paris, suivre une dizaine de longs-métrages auxquels vous participez en tant qu'assistant. Oui. Et je voudrais les citer parce qu'on ne mesure pas toujours et même jamais d'emblée le travail qu'il y a tant qu'on n'a pas son nom en gros au générique d'abord. Alors le premier, c'est avec Costa Gavras, donc en 66, Un homme de trop, puis How to make it de Roger Corman, puis Sur le CERN de Guido Franco, il est en noir et blanc, puis Le temps de vivre, Un été sauvage en 68 de Marcel Camus, dans lequel vous jouez de la batterie sous le pseudonyme de Styx de la Menthe.
C'était mon pseudo de musicien, absolument.
Ça veut dire quoi, Styx de la Menthe ?
Styx, c'est les baguettes. De la Menthe, c'était uniquement en référence à un personnage que j'adore, qui est General Morton, un des pionniers du jazz à la Nouvelle-Orléans, et qui était un mulâtre. Il avait une magnifique carte de visite, il y avait marqué General Morton de la Menthe. Ça devait être vrai d'ailleurs, Inventor of Jazz, ce qui est absolument merveilleux.
Donc ça, c'est dans Un été sauvage en 68 de Marcel Camus. Ensuite, L'Américain de Lelouch.
De Bozifi, produit par Lelouch.
Produit par Claude Lelouch. Oui. L'aveu de Costa Gavras à nouveau. Le mur de l'Atlantique, encore Marcel Camus, et on est en 70. Puis José Giovanni, Un aller simple. Ça n'arrive qu'aux autres avec Nadine Trintignant en 71. Les deux mémoires avec Georges Semprun en 72 et La mort de Raymond Roussel en 74 de Maurice Bernard. Mais donc le premier, 8 ans plus tôt, en 66, c'est Un homme de trop par Costa Gavras. Dans l'imaginaire collectif, évidemment, d'emblée, ce nom-là résonne très fort, même pour les non-cinéphiles.
Ça a été extrêmement important, effectivement. C'est-à-dire, retour de New York où je n'ai pas pu faire le film sur la New Thing, sur le free jazz, parce que j'étais plein d'illusions d'un jeune étudiant sortant de l'IDEC. Hein. Mais en même temps, bon, ça a été une période fantastique à New York, donc tout va bien. Donc je me retrouve à Paris avec un beau diplôme, où il y a marqué réalisateur et monteur dessus, mais qui ne sert à rien. Hein. Et puis j'ai la chance du fameux coup de fil, qui arrive ou qui n'arrive pas, d'un assistant, qui était donc Bernard Paul, qui est assistant des 13 amis de Costa Gavras, qui cherchait un stagiaire. J'ai eu la chance que ces deux-là, c'est-à-dire Bernard Paul et Costa Gavras, aient fait l'IDEC, et avait une préférence pour engager les stagiaires de l'IDEC. Ce qui n'était pas toujours le cas, parce que beaucoup de tournages se méfiaient des gens de l'IDEC, dans la mesure où ils avaient peur d'hériter d'un stagiaire qui se mêlait de mise en scène, qui ne voulait pas courir pour aller chercher les sandwichs, qui ne voulait pas faire le travail d'un stagiaire, qui est un travail de... Enfin, vraiment l'assistant, je veux dire.
C'est réellement ça ? C'est réellement les cafés et les sandwichs ?
Bien sûr que c'est ça. C'est d'abord les cafés et les sandwichs, puis après c'est de courir dans tous les sens, pour aider les autres assistants. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai eu peut-être la chance de comprendre que c'était ça. Bernard Paul était un fantastique premier, donc il m'a très vite, premier assistant, donc il m'a très vite mis dans le coup. Et j'ai eu encore une chance supplémentaire, d'abord que ce soit Costa Gavras qui fasse le film, donc un monsieur qui n'était pas rien, très exigeant, très travailleur, tout ça. Mais surtout que ce film était extraordinairement difficile à tourner. C'est-à-dire que c'était un film sur la guerre de 40, avec des résistants, l'armée allemande, tout ça, en plein hiver, en Auvergne. On courait dans tous les sens, ça a été infernal. Costa avait des problèmes de scénario, c'était plus ou moins produit par les Américains qui étaient sur son dos. Et j'ai commencé stagiaire et à la fin, ça explosait dans tous les sens. Il y avait Costa qui tournait dans un coin, il y avait Bernard Paul qui tournait dans un autre coin. Et moi, on m'a même donné à faire des troisième équipes de camions qui descendaient des pentes. Donc j'ai eu une évolution foudroyante pendant ce film qui m'a aidé pour la suite. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance d'être stagiaire et le film d'après, qui est donc le film de Roger Corman, d'être ce qu'on appelle production manager sur un tournage américain, qui est en fait une sorte de premier assistant. Parce que les équipes américaines ne sont pas formées comme les équipes françaises. Il n'y a pas l'équivalent du premier assistant français qui est un peu responsable de tout, qui à l'époque faisait les repérages, les castings, etc. Le first AD sur une équipe américaine, l'assistant américain, il est là uniquement pour le confort du tournage. C'est-à-dire pour voir que les acteurs vaillent bien, que le metteur en scène est de bonne humeur.
Soit pas trop contrarié.
Voilà, il dit moteur, enfin voilà, mais il n'est pas responsable des accessoires, des repérages, de l'arrivée des gens, il ne contrôle pas la régie, tout ça. Tandis qu'un premier assistant en France a tout ça sur le dos. Donc c'est un métier tout à fait incroyable, hein, et qui est très demandeur. Voilà, il faut travailler vraiment, il faut être corvéable 24 heures sur 24 pratiquement. Alors on aime ça ou on n'aime pas ça, hein. Moi j'ai adoré ça. Donc j'ai eu cette chance de progresser très vite. Et on m'a fait confiance à pas être très très vite comme premier. Et c'est une période que j'ai adorée. J'ai adoré être assistant. Je ne me suis jamais mêlé de mise en scène, sauf si on me demandait des choses. Mais j'ai adoré faire des castings, j'ai adoré faire les plans de travail, j'ai adoré faire des repérages tout seul en voiture. Et j'ai adoré seconder le metteur en scène, quel qu'il soit, sans aucun a priori, ni quoi que ce soit. J'ai eu cette chance de ne pas avoir le jugement à la tête, mais d'avoir l'envie de faire du mieux possible ce travail pour que le metteur en scène soit le mieux protégé possible. Donc ça a bien fonctionné.
Et la chance aussi de cet homme de trop, c'était d'être confronté à un casting formidable.
Ah, oui.
Il y avait Charles Vanel, Bruno Kremer, Brialy, Piccoli, Brasseur, Jacques Perrin, François Perrier.
Incroyable. Enfin, oui,
c'était fou pour un premier film.
Oui, il y a eu ça. Et il y a eu aussi, grâce à Costa Gavras et sa famille, je dirais, intellectuelle, qui était déjà montant signoré. C'était déjà, moi, une première porte vers cette famille qui a été alors qui a été déterminante pour le reste de ma carrière cinématographique, hein, de pénétrer dans l'intimité de ces gens-là qui étaient d'une extrême importance à l'époque. Je veux dire, ça a été un très bon accélérateur pour la suite.
Et vous avez le sentiment de rencontrer des monstres sacrés
ou, oui, ou pas, rencontrer des gens qui m'impressionnent beaucoup en tout cas, mais qui sont constamment en évolution, en recherche, en doute. Ça m'a beaucoup marqué. Je pense aujourd'hui, avec le recul, que mon apologie constante de l'incertitude est quelque chose qui vient de là. Voilà. Le fait d'avoir vu des gens, ne serait-ce que Costa lui-même, j'ai fait l'aveu, hein, c'est pas rien l'aveu, ça a été une date. Hein. Costa, Simone, Signoret, Montand, qui avaient eu donc des engagements typiques de l'époque, hein, qui étaient compagnons de route du Parti communiste, qui ont vécu la Hongrie, qui ont vécu tout ça, qui ont vécu les premiers doutes quoi, hein, sur cet engagement, et qui peu à peu ont été incorrects et qui ont été quand même prémonitoires de ce qui s'est passé après dans la politiquement, dans la psychologie, qui a annoncé 68, qui a annoncé tout ça, hein, je veux dire, c'était tout ça a été le même moment, hein, je veux dire. Donc j'ai eu cette chance inouïe de pouvoir vivre au contact qui, dans le spectacle, étaient des gens qui posaient beaucoup de questions, quoi. Voilà. Qui faisaient pas juste ce métier uniquement pour avoir la gloire. C'était bien autre chose.
Et aller regarder travailler, vous avez appris quoi dans cette façon comme ça de...
Alors, ça, c'est une question un peu complexe. Je pense avoir appris beaucoup au contact de tous les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. Mais je pense quand même que la plus grande partie de ce que j'ai pu apprendre sur ce qu'on appelle du beau mot de mise en scène, c'est plutôt en étant cinéphile. J'ai bouffé du cinéma, j'étais cinéphage. J'ai fait partie aussi de cette génération où on voyait vraiment au minimum un ou deux films par jour, si c'est pas plus, qui a été une période dévorante. Et je pense que c'est là où j'ai sans doute appris le plus. Maintenant, sur les plateaux, j'ai appris à ce qu'était le travail collectif, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, j'ai une très haute idée de la noblesse du travail collectif. Et je crois que ça vient du fait que j'ai été assistant et que j'ai été donc, dès le début, confronté à tous les postes sur un plateau, que ce soit les machinistes, les maquilleurs, les habilleurs, les électriciens, la régie, les acteurs aussi, bien sûr. Donc d'avoir vu comment fonctionnait tout ça, m'a sans doute beaucoup apporté. Voilà. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire des films, j'avais une connaissance intime de ce qu'était un travail d'équipe. Très très vite, j'ai toujours pensé que ce qu'on appelle les techniciens, ou même les ouvriers, c'était avant tout des collaborateurs artistiques.
Et le mur de l'Atlantique, c'était aussi dément que le film lui-même.
Oui. Bah oui, c'était, je pense, le dernier film de Bourvil déjà. Alors déjà, approcher Bourvil, c'était pas rien. Il était extrêmement sympathique, mais très malade déjà à l'époque. Il était, je crois qu'il est mort très peu de temps après. Ah, c'était un monsieur mystérieux. Mystérieux comme peut être le métier d'acteur. C'est quelqu'un d'extraordinairement simple qui, à midi, avait sa serviette à carreaux autour du cou. Son habilleuse lui faisait sa popote dans la gamelle. Donc il avait un côté extraordinairement simple, banal, petit français moyen, etc. Magique au moment de la prise, il faut bien le dire. C'est-à-dire qu'il avait ce génie d'acteur qui sortait de lui d'une manière... Est-ce que c'est instinctif? Je n'ai toujours pas la réponse, j'en sais rien. Mais en tout cas, il donnait énormément. Alors quand on sait en plus qu'il était en train de mourir, et qu'on lui faisait des piqûres tous les 2-3 heures sans qu'il le dise, alors que dans le film, il faisait les choses physiques et tout ça, c'est quelque chose qui m'a, alors là, vraiment marqué à vie. Ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. Marcel Camus a été un très bon compagnon aussi. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait deux films qui étaient extrêmement sympathiques. C'était un film difficile à faire. Il n'y avait pas assez d'argent, comme souvent dans les films, hein, bien sûr. Donc, il fallait se débrouiller constamment. Le producteur était Georges de Bourgard, qui a été le grand producteur à Nouvelle Vague. Alors, évidemment, il y avait une sorte de contradiction entre le mur atlantique et la carrière de Bourgard. Et je me souviens toujours que moi, je me battais avec le producteur en disant « Mais il me faut 3 camions allemands, etc. » refusé par la production. Et Bourgard me disait « Mais moi, quand Godard me demande une Cadillac, je lui donne une 2 chevaux, il est content. » Je disais « Mais oui, mais c'est pas un film de Godard. Qu'est-ce que je peux faire? C'est un film de Marcel Camus. Avec Bourville, c'est pas du tout la même chose. » Mais ça, c'est le travail d'assistant pur, je veux dire. Et j'essayais de le faire au mieux, bien sûr.
Et puis il y a eu, juste après, le travail avec José Giovanni sur Un aller
Oui.
simple, c'est
Oui.
ça? Avec ces scènes de nuit
Oui, oui.
assez fabuleuses.
Alors José est une rencontre également importante, mais tous ces gens-là ont été importants. José a été particulièrement important parce que d'abord, je connaissais ce qu'il avait écrit. Je savais sa vie, je savais qu'il avait été condamné à mort très jeune, je savais qu'il avait passé 3 ans dans le couloir de la mort, et je savais après qu'il avait été commué en perpète et après gracié. J'avais vu Le Trou, j'avais vu Classe de risque, le premier film de Claude Sauté avec Ventura, qui est une splendeur, et j'avais vu Le Deuxième Souffle, qui m'avait beaucoup marqué. Je pense que c'est des films formateurs, ça. Hein. Donc quand j'ai rencontré José, j'avais tout ça dans la tête. J'ai vu quelqu'un qui était très amical, très droit, qui avait gardé l'esprit tôlard, qui racontait des
oui,
histoires
très
comme ça,
de
oui, formidable, et qui effectivement voulait changer un peu la génération de ses équipes. Donc il m'a demandé, il m'a donné la responsabilité d'amener un opérateur, d'amener un ingénieur du son, etc. Des gens qu'il connaissait pas, qui étaient plutôt de ma génération. Voilà. Donc ça a été formidable. Évidemment, j'ai pu amener Glenn à la photo, enfin des choses comme ça, qui étaient des gens nouveaux dans ce type de production. Et en plus, il m'a, pour la première fois, donné quelques responsabilités supplémentaires qu'un premier assistant simple, en me disant, qu'est-ce que tu ferais avec ces scènes de nuit? Qu'est-ce que tu ferais avec ces scènes de voiture?
Un aller
simple, c'est l'histoire de quelqu'un, c'est assez complexe, c'est un remake, hein, d'un film américain. C'est Jean-Claude Bouillon qui joue le rôle de quelqu'un qui va, en fait, vers la mort, hein, qui va vers la mort, comme ça, c'est l'obsession de José, et qui est confronté à la trahison, quoi. Voilà. Ça, c'est quelque chose que José a eu toute sa vie dans la tête. Ça se passait en Belgique, on a tourné en Belgique et en studio à Madrid, enfin la folie en général, des productions, des trucs déments à cause des coproductions, mais c'est un très beau souvenir, voilà. Et j'ai gardé après des rapports constants avec José, on s'est revus souvent. Quelques années plus tard, moi quand j'ai commencé à faire des films, j'ai commencé à avoir dans la tête l'idée d'un remake du Deuxième Souffle, voilà, et j'ai commencé une longue discussion avec José qui a duré, je dirais, presque 25 à 30 ans. Voilà.
Voilà. Jusqu'à sa mort en 2005.
Voilà, et quand il est mort, bizarrement, c'est pas ce qui a déclenché mon envie enfin de le faire, parce que j'avais tenté de le faire avant déjà de plusieurs manières, mais c'est la rencontre avec des producteurs où on s'est aperçu d'un seul coup, Michel et Laurent Pétain, qu'eux aussi avaient la même envie, la même obsession depuis plusieurs années, et qui avaient aussi, eux, rencontré José Giovanni sur un tournage. Voilà. Donc il y avait eu le même coup de foudre pour l'homme et aussi pour ses livres, et en particulier pour ce livre qui est sans doute un de ses plus beaux. Voilà, l'histoire avec José.
Voilà. Ça, c'est
un montagnard, varapeur.
Ah, lui, il aimait la montagne alors.
Ah, lui, ça a été un montagnard. Il a passé sa jeunesse dans les montagnes. Il était dans les jeunesses montagnardes quand il était jeune. Il a toujours fait de la varap. Dès qu'on arrivait devant un bâtiment où il pouvait grimper, il grimpait. Enfin, je veux dire, c'était vraiment José, quoi. Ça, oui. Lui, c'était la montagne. C'était son truc. C'était chaussures de montagne, chaussures de marche. C'est les grands espaces. Je pense qu'il a toujours tenté de. Toute sa vie a été un deuxième souffle, José. Hein.
Et de s'évader par le haut.
Oui, je crois. Je crois que c'est ça. Et de quitter, ce qui revient souvent dans ses livres, arrêter tout ça, changer de vie, changer de vie, changer de vie. Et ça a été son obsession. Et je pense que la montagne lui permettait effectivement d'aller vers là où le manque d'oxygène représentait de l'oxygène pour lui, quoi. En gros, c'est ça. Et plus l'effort, plus de faim, se vaincre lui-même et tout ça. Parce que José, il m'a raconté souvent qu'il s'était transformé en prison en un quart de seconde pratiquement. En se voyant, il me racontait qu'il se voyait encore une fois faire une bagarre, etc., avec des bouts de bouteilles, etc. Et d'un seul coup, il s'est vu, il a vu les autres autour de lui, disant, vas-y, crève-le, crève-le. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Quand quelqu'un vous raconte ça, on l'écoute avidement. Hein, plus l'autre chose qu'il raconte dans le trou est entièrement vrai, hein, tout ce qui est dans le film et dans le livre, c'est vraiment le seul livre où tout est vrai, où le personnage de le roi Beaulieu en prison, c'est José Giovanni. Et bon, c'est l'histoire d'une trahison, encore une fois. C'est-à-dire qu'ils préparent cette évasion, ils en parlent à quelqu'un qui n'est pas comme eux dans la cellule, qui n'est donc pas un truand, mettons, qui n'a donc pas de parole, soi-disant, et qui effectivement vont les balancer. Et donc la dernière phrase du film est formidable, parce qu'ils sont donc découverts au moment où ils vont fuir, ils sont donc déshabillés dans le couloir, le traître sort de la cellule, et à ce moment-là, un des personnages se tourne vers lui en disant « pauvre Gaspard ». Et c'est extraordinaire. Mais José m'a toujours dit... Toute ma vie a été obsédée par le thème de la dénonciation, et en même temps, heureusement que j'ai été balancé. Parce que sinon, si j'étais sorti de prison à cette époque, je serais descendu à Marseille tuer celui qui avait tué mon frère, et qu'est-ce que je serais devenu? Tandis que là, bon, j'ai fait 90 jours de mitard, et puis j'ai changé, j'ai écrit le livre, Becker a fait le film. Voilà,
donc, il serait devenu ce que devient Gu dans Le Deuxième Souffle.
Oui,
en fait.
Absolument, absolument. C'était son obsession, oui, bien sûr. Oui. Donc, vous voyez, moi j'adore toutes ces contradictions. J'adore tout ça, je pense que l'identité est faite de ça.
Juste après lui, toujours en 71, vous travaillez avec Nadine Trintignant,
oui,
sur Ça n'arrive qu'aux autres,
oui,
ce film très, très intime et,
ça, très
et déchirant sur la ouais, perte d'un enfant, qu'ont tourné Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni.
Absolument, oui. Ça a été un très grand moment. C'est la première fois que je déboulais sur un film aussi intime. Aussi,
vous étiez très peu nombreux, c'est ça ?
On était très peu nombreux. On tournait souvent en improvisation. Et évidemment, le rapport que Nadine avait au film, et donc avec son équipe, et donc avec moi, était particulier. Était évidemment rempli d'une émotion qu'il n'y a pas forcément sur un autre film. Même s'il y a des films où la tension est forte, là, c'était quand même très particulier. Il y a même
c'était
eu des
son
moments,
histoire vécue.
Bah oui, c'était son histoire directe. Elle avait besoin de faire ce film, besoin d'en parler. Ce qu'avaient très bien compris Catherine Deneuve et Marcello, et Lelouch qui produisait le film d'ailleurs. Je me souviens même d'un moment où le couple court vers l'hôpital avec cette petite fille dans les bras, où Nadine ne voulait pas tourner, quoi. Parmi le travail, entre guillemets, l'assistant, voilà, le travail, mais ça travaille quand même, c'est d'aller avec elle à l'écart du tournage et de la persuader qu'il faut tourner, que je ne peux pas le tourner moi. Voilà. Et elle est venue tourner.
Il y a eu un écho assez heureux à ce film tragédie, c'est la naissance de Chiara Mastroianni quelques mois après le film.
Absolument, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant le film une histoire d'amour dont on a vu les choses pendant le tournage entre cet extraordinaire acteur qui était Marcello et cet homme merveilleux qu'il a été jusqu'au bout et Catherine Deneuve qui est une des plus grandes actrices qu'on ait en France et une fille absolument merveilleuse d'une intelligence redoutable et brillantissime. Voilà. Donc c'est vrai qu'on avait là deux monstres qui ne se conduisaient pas comme des monstres, hein, qui étaient les gens très très embarqués dans le film et qui en même temps avaient, on voyait effectivement naître, ce qui est toujours très émouvant, une espèce de passion folle entre deux, quoi. Effectivement, ça aboutit à Chiara, qui également est une fille merveilleuse, donc tout va bien.
C'est assez fascinant pour un spectateur extérieur comme ça, de mesurer combien la vraie vie se mêle au cinéma.
Ah, ça c'est sûr. Bah, en plus, moi, après, je suis devenu le compagnon de Nadine, en plus, quelques années plus tard. Mais enfin bon, donc il y a eu une naissance, là, effectivement. En ce qui me concerne, c'est un film plus que formateur, si j'ose dire, pour être modeste et pudique. Oui.
Vous avez été après co-scénariste avec elle sur Défense de savoir.
Oui, c'est ça ? Grâce à Nadine, j'ai eu une petite période d'essai de scénariste. Elle voulait faire un film d'obédience noire. Elle savait que j'étais obsédé par le polar. Elle avait envie de faire quelque chose comme ça. Le cinéma policier français des années 70, 75, etc. a eu toujours cette base de radiographie sociale un peu agressive qui lui permettait de fonctionner. Il y a eu Yves Boisset, il y a eu tout ça. Enfin, il y a eu beaucoup de gens à l'époque qui avaient travaillé dans le même sens. Voilà. Ça a dû me permettre de me dire, bah, un jour ou l'autre, j'arrêterai les assistants parce que je n'osais pas me le dire. Je pensais que je continuerais à être assistant, j'étais heureux et que tout allait bien et que je n'avais pas envie de m'arrêter. Voilà.
Et alors, le premier film que vous comptiez faire et qui ne s'est pas fait, c'est
Jim Thompson. Oui,
il
y a d'abord New York qui ne s'est pas fait. Oui. Donc, ça a été deux échecs, mais tant mieux. Alors, le premier, c'est effectivement d'après un livre de Jim Thompson, qui en français s'appelait 1275 armes, qui était le numéro 1000 de la série noire, qui avait été donc une date pour Duhamel, qui en anglais s'appelle Population 1280, c'est-à-dire 1280, mystère jamais résolu, et que même Jim Thompson ne comprenait pas. Il disait pourquoi il y a 1280 habitants en Amérique et pourquoi 1275 en France. On a beau compter le nombre de morts, ça ne correspond pas.
Bon, voilà. Ça sonnait mieux.
Oui, c'est sans doute, il devait y avoir quelque chose de ça. Mais à l'époque, Duhamel, qui a été un grand éditeur, se permettait beaucoup de liberté avec les textes, coupait, traduisait à peu près comme il voulait, etc. Enfin,
voilà. Pour vous, ça a compté la série noire chez Gallimard?
Ah oui, énormément, oui.
C'était
énormément.
Culte.
En plus, il faut bien se rendre compte que la série noire de Gallimard est très particulière et très, très typique de la culture française. C'est-à-dire que ce sont des livres policiers, écrits donc par des Français, anglo-saxons, etc., qui normalement sont des pulps. C'est-à-dire, par exemple, Jim Thompson, aux États-Unis, il était publié dans des séries qu'on vend dans les supermarchés, avec plus ou moins des filles plus ou moins à poil sur la couverture. Hein. Et en France, alors ça, c'est typique des Français, c'était en série noire, donc noire, mais quand même Gallimard.
Très classieux.
Voilà, et pour une certaine, ça n'a jamais été populaire, dans le sens basique du terme. C'était quand même pour des gens de classe moyenne, des intellectuels, c'était ça. Et la série noire fait partie de cette tradition en France de revisitation de la culture populaire américaine pour lui donner les lettres de noblesse. C'est Faulkner qui a été réinventé en France, c'est le cinéma noir américain, c'est Hitchcock qui a été réinventé en France, c'est typique français. Et la série noire, c'était ça. Bon. Alors par contre, moi, quand j'ai voulu faire ce film, effectivement, j'avais Jacques Perrin comme producteur, et puis j'ai eu la chance, même si le film s'est pas fait, d'aller aux États-Unis chez Jim Thompson, qui était encore vivant, de connaître ce dinosaure, qui est sans doute le dernier grand écrivain noir, hard-boiled, comme on dit, de cette époque, des années 50-60, qui avait tout vécu. Qui avait vécu le Parti communiste, les chairs écrasées, l'alcoolisme, j'en passe et des meilleurs, le macartisme, la liste noire, etc., qui était donc un personnage immense, malheureusement alcoolique devant l'éternel. Bon, quand je l'ai connu, il n'avait plus de foie, plus de rate, plus d'estomac, mais il continuait à boire quand même. avec sa vieille Remington, et on a écrit un scénario ensemble. Voilà, on a réussi à écrire un scénario ensemble à propos de ce livre où il a encore durci dans la noirceur, si c'est possible. Donc après, comment faire ce film ? Mystère et boule de gomme. Je voulais tourner en anglais, j'avais déjà des acteurs, j'avais Warren Oates, Stellan Bornin, des gens qui venaient de Peckinpah, hein, c'était mon obsession de l'époque. Ou le tourner en Espagne, dans un décor de western, ça devenait délirant. Et puis en fait, on n'a pas pu le faire, quoi. Voilà. Donc ça s'est arrêté, faute de combattants, comme souvent les films peuvent s'arrêter. Plusieurs années plus tard, après que moi j'ai déjà fait quelques films, Bertrand Tavernier m'a appelé en me disant « Est-ce que tu as toujours envie de faire ce livre ?» Je lui ai dit « Écoute, non, je ne suis pas arrivé, etc. » Il m'a dit « Bon, bah, alors moi j'ai une idée pour l'adapter en Afrique noire. » Et il a fait « Coup de torchon ». Donc il a eu raison, c'était une très bonne façon de l'adapter. En tout cas, d'avoir vécu quelques semaines avec Jim, je ne peux pas le regretter. C'est quelque chose qui est... Enfin, je me souviens de lui, quoi. Je me souviens de lui me parlant, de me racontant des histoires, parce que c'était un storyteller, un sudiste, Jean Faulkner, racontant des histoires le soir, et puis à la fin me disant « Ah, mais j'ai dû faire un livre de ça. » Il ne se souvenait même plus. Je me souviens de lui attaquant, il me disait « Moi, j'attaque, j'ai jamais de plan, j'écris comme ça. » En ce qui concerne 1900 de Kazam, l'éditeur new-yorkais lui a dit « Mais je publierai pas ça, il n'y a pas de fin, qu'est-ce que cette histoire de chien qui se renifle à la fin ?» Et Jim a dit « Moi, je peux rien faire l'autre. » Bon, il a fini par l'éditer comme ça, heureusement. Hein. C'est des personnages qui sont inouïs, je veux dire, les fameux hard-boiled comme ça. Et bon, aujourd'hui, Jim Thompson est reconnu comme un grand maître. Stephen King l'a porté au nu. Il est étudié dans les universités américaines. On est venu le voir plusieurs fois sur des biographies. C'est un peu l'histoire de ce genre. Hein. C'est-à-dire qu'au cinéma comme en littérature, il faut accepter le fait que les films noirs sont souvent pas très bien considérés au moment de la sortie, même s'ils marchent ou qu'ils marchent pas, et reconsidérés très souvent quelques années plus tard quand ils sont bons. Voilà. Donc c'est la même chose pour un écrivain comme Jim Thompson, qui aujourd'hui est porté au nu, et tant mieux. Je veux dire, c'est dommage que ça ne soit pas produit pendant sa vie, quoi. Mais bon, il n'est pas le seul damné que j'ai rencontré dans ma vie. J'ai rencontré aussi des gens comme Bud Powell, qui était un immense pianiste de jazz, qui a été abandonné de tous, que j'ai retrouvé, moi, mourant dans une petite chambre de Brooklyn, sans que personne s'occupe de lui. Hein.
Votre premier film, alors le premier qui se fait vraiment, oui, c'est France Société Anonyme.
Oui.
Là encore, il y a un truc avec les chiffres, parce qu'on est le 22 février 2222. C'est l'histoire d'un ex-trafiquant de drogue qui sort d'une longue hibernation.
Oui.
Enfin,
oui.
C'est Hibernatus version noire.
C'est avant tout ce que j'appelle, j'ose nommer comme un vrai premier film. Dans lequel j'ai tout balancé, où j'avais l'inconscience ou l'innocence de dire bah alors j'y vais, donc pas de personnage identifiant, pas de narration de fascination, une sorte de fable grotesque avec des personnages qui sont plutôt des marionnettes et dont la base théorique c'est la société permissive, mais en fait une société de pur rendement. Donc je prends ce qui à l'époque était très à la mode, l'inflation du trafic de drogue. Et par cette métaphore de la drogue, je montre que les petits truands européens sont en train de se faire prendre par une multinationale américaine. La drogue est devenue permissive, donc on fait de la pub, etc. Plus ou moins pornographique d'ailleurs. Enfin bon, là je dois dire que j'y vais carrément. J'y vais carrément.
Avec Michel Bouquet.
En toute inconscience. Il y a Michel Bouquet qui joue le jeu, Michel Bouquet qui est un monsieur qui a l'air raisonnable et qui est totalement cinglé. Je veux dire, c'est pour ça que c'est un immense comédien. Avec Dubillard qui est un immense comédien qui joue le jeu aussi. Ça fait ce film très curieux, dont je ne sais pas quoi penser, qui n'a pas marché du tout.
Hein. Il est même allé à Cannes pourtant.
Oui, il était à Cannes dans la section perspective des nouveaux films. Il n'y a pas eu que les mauvaises critiques.
Il y en a eu une terrible, je l'ai noté dans le Figaro.
Oui.
Premier film d'Alain Corneau,
dernier.
Qui n'en fera certainement jamais d'autre. Comment on se relève d'une phrase aussi assassine ?
J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Franchement, on fait un film comme ça, il se passe ce qui se passe là, avec des critiques violentes, et quelques-unes, pas beaucoup, mais quelques-unes bonnes. Donc ça équilibre un peu. On en prend plein la gueule, on met un temps à s'en remettre, hein, même physiquement. Hein, je veux dire, bon, mais moi je me suis dit tout de suite, personne ne te force à faire un film. Personne ne force les gens à y aller ni à l'aimer. De ce côté-là, on est propre. Bon. De l'autre côté, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Alors bon... Ces critiques-là, bien sûr qu'elles vous agressent, et elles sont d'ailleurs un peu faites pour ça, hein, je veux dire, faut pas se leurrer. Mais moi, j'ai toujours eu... c'est pas un détachement, j'ai toujours pensé que chacun faisait son métier.
C'est du lâcher prise.
Oui, chacun fait son métier, il y aura toujours de la critique, et c'est comme ça, et il y aura des gens plus ou moins violents, plus ou moins bien élevés, hein, mais qu'il faut pas mettre le doigt dans cet engrenage. Voilà, que si on commence à dire, ah oui, mais faut pas faire ci, faut pas faire ça, en ce qui concerne les médias et principalement la critique, là, je ne sais pas où on va.
Mais cette sensation comme ça de jouer sa vie pour le coup et d'être sur le grill à chaque fois qu'un film sort,
c'est terrible, on s'y habitue pas. Hein. Ce qui est très difficile pour quelqu'un, pour un metteur en scène, mais pour d'autres gens, ça doit être pareil, c'est de passer du monde où on fabrique, avec tous les gens qui collaborent
avec
vous.
Et où on est passionné.
Et au moment où l'objet est fait, et d'un seul coup, on arrive dans un monde de gens qui vous regardent, qui vous jugent, ce qui est normal, et dans lequel on n'a pas le mode d'emploi. Voilà, où on ne peut plus rien faire, on est paralysé, et on attend le jour de la sortie comme un tremblement de terre. Voilà, au moins le jour de la sortie, c'est clair et net. Ça marche ou ça ne marche pas. Personne n'analysera jamais exactement le désir du jour de la sortie des spectateurs d'y aller d'une manière urgente. Même moi, il y a des films que j'ai envie de voir. Pourquoi je ne vais pas voir la première semaine? Pourquoi, d'un seul coup, je vais voir un film plus vite? C'est inanalysable. Alors ça, c'est une terreur, parce que ça, c'est complètement le mystère. La critique en fait partie. Et en même temps, s'il n'y avait pas ce mystère absolu, on n'aurait aucun espace de liberté à l'origine. Voilà, donc je me dis toujours ça, moi. Je me dis, c'est parce que le mystère est absolu qu'on peut, au départ d'un projet, convaincre des financiers, un producteur, etc. Ils peuvent jouer. Se dire, bah oui, pourquoi pas, voilà, parce qu'on ne sait pas, voilà. Donc, faut toujours faire attention à ça, voilà. Alors, concernant la critique, bah, j'ai appris au fur et à mesure des années. Au début, évidemment,
Vous avez pensé arrêter à l'époque, après ce premier
film, bien sûr, pendant un moment, on pensait ça. Mais presque à chaque fois qu'on a un gros échec, oui, on se dit, bah, c'est fini, j'ai plus le truc, j'ai plus la clé, etc. Il faut un temps de, je vais parler d'une manière un peu conne, de reconstruction.
Il faut se revenir.
Cela dit, il y a plusieurs races de metteurs en scène. Il y a des metteurs en scène qui ont des projets d'avance. Ils ont bien raison. C'est-à-dire, quand un film sort, ils sont presque déjà sur un autre film. Donc, ça relativise le choc. Moi, malheureusement, je fais partie des handicapés. C'est-à-dire des gens qui n'ont qu'un projet à la fois, qui sont entièrement mobilisés sur un, donc ils me retrouvent dans un trou noir avant la sortie. C'est moins facile à vivre, mais ça me regarde. C'est une question de rythme personnel, voilà. Après, j'ai appris à m'écarter de ça et à laisser dire. Je veux dire, qu'est-ce que je peux faire? D'abord, on peut rien faire du tout. Donc, après celui-là, une grosse dépression normale, hein, y a pas de quoi non plus en faire des tragédies. Je veux dire, on fait un film, on s'expose, hein, ou alors il ne faut pas le faire. Bon. Et puis par contre, moi ce qui m'a, entre guillemets, sauvé, c'est que je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment le genre de cinéma là que tu as envie de faire? C'est tout. Ce film-là était tellement particulier, tellement désarticulé, tellement baroque, tellement... Et je me suis dit, mais non, qu'est-ce que tu aimes vraiment comme cinéphile? Le cinéma noir. Et quand j'ai réussi à repenser comme ça, je me suis dit, très bien, c'était dans le train, dans un déplacement, en 25 minutes, j'ai écrit sur le papier 15 pages, qui était le deuxième film, voilà, Police Python, qui était alors dans le code du cinéma noir, avec ce que je pensais moi être pouvoir apporter, et j'ai eu une espèce d'incroyable, à tort raison, satisfaction de déboucher dans ce qui était sans doute mon terrain de jeu.
Merci Alain Corneau. Demain, nous parlerons de ces ambiances de flics et voyous et souvent de truands que justement vous affectionnez tant. À demain. C'était Alain Corneau, à voix nue, avec Sophie Nolot. Prise de son, Marcel Lebras. Réalisation, Laurent Polleret.